Bon, ben écoutez, bonjour. Merci d'être venu ce matin sur la prairie. Je crois que vous avez bien eu raison parce que nous allons avoir, j'en suis certain, une rencontre passionnante. C'est la deuxième année consécutive que nous parlons d'Europe. Vous étiez déjà beaucoup l'année dernière pour entendre Michel Barnier à l'aube de l'annonce de sa candidature donc à la primaire républicaine. Le contexte n'était pas le même, les préoccupations étaient plus hexagonales. Cette année, alors que la guerre fait rage effectivement donc à l'est de notre continent, donc le contexte est évidemment plus différent, dramatique. Et donc, dans ce contexte, on a la chance en fait aujourd'hui d'avoir avec nous Jérémy Gallon, qui est un homme de la nouvelle génération, à la fois expert, vous allez le voir donc par son CV, des questions européennes, mais déjà donc un acteur très engagé et qu'il sera certainement encore beaucoup plus dans la construction européenne dans le futur. Rapide bio de Jérémy Gallon. Vous avez 37 ans. Après des études à HEC donc, et un master de droit à l'université de Harvard, vous avez démarré votre carrière comme avocat d'affaires. Et puis après être parti en Serbie pour le compte de la Banque mondiale. Ensuite, ça a été 3 ans à Washington, aux côtés de l'ambassadeur de l'Union européenne. Vous étiez conseiller. Et de cette expérience, vous avez tiré un livre paru en 2018 chez Gallimard qui s'appelle Journal d'un jeune diplomate européen dans l'Amérique de Trump. Retour en Europe, retour en France pour diriger la Chambre de commerce américaine. Là encore, un cycle de 3 ans, donc, et conseiller des entreprises américaines donc implantées en France. Et puis, vous avez maintenant rejoint Bruxelles depuis 2 ans, le cabinet McClarty, qui est le plus grand cabinet de conseil géopolitique, donc qui est un cabinet américain, mais dont vous dirigez le bureau européen. À côté de ces importantes responsabilités, vous êtes enseignant à Sciences Po sur les questions européennes. Vous avez une chronique régulière dans l'Express sur les questions de géopolitique. Vous signez des tribunes dans le Figaro, dans différents médias anglo-saxons. Et depuis quelques semaines, je crois, vous avez créé avec votre ami Romain Marcilly un blog, non pas un blog, en fait un podcast de géopolitique, une chronique hebdomadaire qui traite tous les sujets du moment, qui a déjà rencontré un grand succès. Et qui s'intitule Le Corse et l'Auvergnat. L'Auvergnat, c'est vous, Jérémy, mais pas seulement Auvergnat, puisque vous êtes aussi un peu ilet. L'histoire est jolie, surtout quand on est ici, prairie de la Citadelle. C'est que le grand-père de Jérémy, après la guerre, était médecin militaire et a été affecté à la Citadelle pour s'occuper de la santé défaillante du maréchal Pétain. Et il a rencontré une jeune Ilaise charmante et ils sont repartis après sur le continent. Voilà. Donc, Auvergnat, il est passionnément européen, vous allez nous le montrer. Et aussi, donc, on peut le dire, un grand admirateur d'Henri Kissinger, dont vous avez signé l'année dernière donc une biographie, ou plutôt en fait un portrait intellectuel, en le sous-titrant Henri Kissinger, l'Européen. Donc, c'est un peu paradoxal pour un homme donc, qui a passé sa carrière aux États-Unis donc, et qui a servi les intérêts effectivement de la puissance américaine, mais européen à travers ses racines, évidemment, de juifs allemands donc émigrés avec sa famille avant la guerre, ses filiations intellectuelles, et aussi à travers ça, ce que vous exprimez, je pense que vous y reviendrez, c'est votre regret qu'il n'ait pas pu mettre son immense talent en fait, au service de la cause européenne. Vous avez intitulé cette rencontre Pourquoi et comment bâtir en fait une Europe puissance? En creux, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'Europe n'est pas aujourd'hui une puissance, 65 ans après la signature du traité de Rome. Alors qu'est-elle? Un marché unique prospère, une bureaucratie faiseuse de normes, une tour de Babel, effectivement, de vieilles nations qui ont renoncé à jouer un rôle dans l'histoire et qui se chamaillent sur leurs valeurs et essayent de protéger leurs intérêts nationaux. Est-ce que c'est ça l'Europe aujourd'hui?
Cher Arnaud, merci beaucoup pour votre introduction. Je tiens également à remercier le comité d'organisation d'un lieu et une rencontre de m'avoir invité et également d'organiser ces rencontres dans ce cadre superbe et j'espère que celle-ci donnera également l'occasion d'un bel échange. Et puis je tiens surtout à vous remercier tous et toutes d'être présents aujourd'hui. Pour commencer, j'aimerais commencer avec une petite anecdote et vous amener loin d'ici, si vous me le permettez, à quelques instants, loin de cette belle prairie. On est le 28 novembre 1943 et nous sommes à Téhéran. Et pourquoi Téhéran ce jour-là, plus précisément en milieu d'après-midi? Parce que dans le salon d'honneur de l'ambassade soviétique à Téhéran, pour la première fois, les trois grands vont se rencontrer. Winston Churchill, Franklin Delano Roosevelt pour les États-Unis et le maître du Kremlin, Joseph Staline. Et ce jour-là devrait être un triomphe pour Churchill. Parce que depuis plus d'un an, il se bat pour réunir les trois grands ensemble, pour créer cette alliance. Il a convaincu, après bien des voyages à Washington, les États-Unis d'entrer en guerre. Il a bien aidé en cela par Pearl Harbor. À la suite de l'opération Barbarossa, il a voulu créer ce lien avec Staline. Et donc ce jour où ils sont tous ensemble, ça devrait être vraiment la consécration pour lui. Néanmoins, Churchill dira que ce jour-là, il a ressenti une profonde mélancolie. Et pourquoi une mélancolie? Parce qu'en regardant Staline et Roosevelt, ce jour-là, il comprend que l'après-guerre, qui se dessine déjà petit à petit, parce qu'il y a eu les premières victoires, von Paulus a rendu les armes à Stalingrad, victoire également contre l'Axe dans le Pacifique, donc là, il sait qu'il y aura encore des souffrances, des batailles, mais il voit l'après-guerre se dessiner déjà, et il comprend que cette après-guerre sera dessinée sans les Européens, que ce sont les deux grands, les États-Unis et l'URSS à l'époque, qui dessineront le monde de demain. Et que l'Europe, qui a écrit l'histoire depuis des siècles, ne sera plus à la table des grands. Et ça, c'est une obsession qui va l'animer, Churchill. Et moins d'un an plus tard, le 4 juin 1944, deux jours à peine avant le débarquement en Normandie, il retrouvera De Gaulle dans un train spécial affrété à Portsmouth. Et plutôt que de parler du débarquement en Normandie, parlons de ça. Parlons de la place de l'Europe dans le monde de demain. Et Churchill, comme De Gaulle, avait cette préoccupation. Et après la Seconde Guerre mondiale, évidemment, on rentrera dans le combat de la guerre froide, mais Churchill sera toujours animé par cela. Et il y a un discours qu'on a un peu oublié aujourd'hui, qu'il va donner le 12 août 1949 à Strasbourg, place Kléber. Et en plus, c'est un discours que Churchill va prononcer en français. Et je vous en cite juste quelques lignes. C'est Churchill qui parle. « Dans cette ville ancienne et encore marquée par les blessures de la guerre, nous sommes réunis pour former une assemblée qui, nous l'espérons, sera un jour le Parlement de l'Europe. Nous sommes ici pour faire revivre les gloires ancienne de l'Europe, et permettre à notre illustre continent de reprendre, dans une organisation mondiale, sa place de membre indépendant et se suffisant à lui-même. Ainsi, non seulement nous trouverons le chemin de la renaissance et de la prospérité de l'Europe, mais en même temps, nous nous protégerons nous-mêmes contre tout risque d'être piétinés et écrasés. » Et je pense que la question, plus de 70 ans après, c'est celle de savoir si l'Europe a répondu à cette promesse, cette ambition de Churchill. Est-ce qu'aujourd'hui, sur notre continent même, on est capable d'être protégé du risque d'être piétiné, écrasé? Est-ce qu'on est capable à nouveau de dessiner l'histoire? Est-ce que cette renaissance européenne a eu lieu? Et au risque de paraître pour pessimiste en propos liminaire, mais je pense que la réponse est négative, quelle que soit l'approche que l'on adopte. Si on prend une approche historique, l'idée n'est pas du tout de faire une revue exhaustive des 70 dernières années, mais juste quelques dates. 1956, crise de Suez. C'est une crise qui est emblématique, parce que pour la première fois, on voit que les deux puissances qui ont dessiné le monde depuis le XVIIe siècle, la France et le Royaume-Uni, ne peuvent, dans leur voisinage immédiat, à savoir l'Égypte, même plus écrire leur destin, sans l'aval des deux grands. Plus récemment, début des années 90, milieu des années 90, ex-Yougoslavie, vous l'avez dit, moi j'ai vécu en Serbie, moins de 50 ans après la fin de la Shoah, les Européens sont incapables sur leur propre territoire d'éviter que de nouveaux concentrations se bâtissent, d'éviter de nouveaux massacres interethniques et d'éviter Srebrenica de se produire. Plus récemment, la crise syrienne. J'étais diplomate à ce moment-là pour l'Union européenne. C'est une crise qui, à la fois, me mettait en colère et était exemplaire de ce que nous sommes aujourd'hui. C'est une crise existentielle, la crise syrienne, pour les Européens. De par la menace terroriste qu'elle génère et dont la France a été la victime, de par les flux migratoires qu'elle a nourris et donc en conséquence la montée des populismes et des extrêmes dans tous les pays européens, de par les fractures qu'elle a créées entre Européens. Et pourtant, étions-nous à la table des négociations sur la crise syrienne ? Absolument pas. L'Union européenne n'était pas à la table des négociations. Les Russes, les Turcs, les Iraniens, les Américains dessinaient ce qui se passait dans la crise syrienne. Nous n'étions pas présents à la table des négociations. Plus récemment, la guerre dans le Nagorno-Karabakh entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, deux pays qui sont quand même, je le rappelle, membres du partenariat oriental de l'Union européenne. Est-ce que l'Union européenne intervient dans cette crise ? Absolument pas. C'est les Russes et les Turcs qui décident aujourd'hui ce qui se passe dans le Caucase. Et si on revient encore plus près, c'est même avec nos alliés aujourd'hui qu'on a du mal à exister. Il y a un an, le temps médiatique est court, alors on l'oublie. Mais nos journaux télévisés, nos journaux étaient saturés d'articles sur le retrait en Afghanistan. Est-ce que les Américains se sont coordonnés avec nous ? Absolument pas. Alors qu'on avait envoyé des troupes en Afghanistan, que certains de nos soldats y ont perdu la vie. Accord sur le nucléaire iranien de Vienne, l'administration Trump s'en est retirée sans se coordonner avec les Européens. Et puis évidemment la crise en Ukraine, sur notre propre sol. Il y a 15 jours, c'est le dernier chiffre que j'ai trouvé, le montant total d'aide apportée à l'Ukraine était de 74,5 milliards d'euros. Sur ces 74,5, 43 milliards avaient été fournis par les États-Unis, dont 26 milliards d'aide militaire. Les Européens sont très, très loin derrière. Et notamment en termes d'aide militaire, aujourd'hui, on arrive dans tous les états-majors européens à cette situation où on sait très bien que si on donne plus aux Ukrainiens, on se met nous-mêmes en situation d'extrême vulnérabilité, parce que nos stocks d'armement étaient déjà très faibles avant le début de la crise. Donc aujourd'hui, sur un plan historique, en termes de crise géopolitique, nous sortons de l'histoire. Si on regarde en termes de narratif au niveau mondial, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on est en train de perdre la bataille du narratif dans toutes les régions du monde. L'influence européenne est en recul en Amérique latine, en Asie, en Afrique. Regardons la crise ukrainienne. Aujourd'hui, le narratif qui est utilisé par un pays comme l'Afrique du Sud, c'est les éléments de langage du Kremlin, ce n'est pas les éléments de langage européens. Lorsqu'on regarde les votes qu'il y a eu à l'ONU depuis le début de la crise, il y a un consensus occidental, ce n'est pas un consensus mondial. Il y a effectivement une majorité de pays qui ont condamné l'agression russe en Ukraine, mais si on calcule en termes de population, plus de la moitié de la population mondiale s'est abstenue ou a refusé de condamner la Russie. Même en Afrique, le continent qui, par définition, va avoir une influence considérable sur notre avenir, où, de par nos liens historiques, on devrait avoir une influence considérable, où également, je rappelle quand même que l'Union européenne fournit 75% de l'aide au développement en Afrique subsaharienne, notre influence est en train de se réduire chaque année. Et on l'a vu récemment avec les opérations militaires françaises, que ce soit en République centrafricaine ou ensuite au Mali. Aujourd'hui, c'est le narratif russe qui l'emporte. Ceux qui investissent aujourd'hui en Afrique, c'est la Chine, c'est la Turquie, c'est les pays du Golfe, c'est les États-Unis. C'est de moins en moins la France. Donc cette bataille du narratif, on est encore en train de la perdre. Juste quelques mots sur le plan également économique et technologique, parce qu'aujourd'hui, tout est lié en termes de géopolitique. Juste quelques chiffres qui sont révélateurs. Aujourd'hui, en termes d'intelligence artificielle et de blockchain, deux domaines qui vont façonner l'économie du monde de demain. L'année dernière, 80% des investissements dans ces deux secteurs ont été effectués par les États-Unis et la Chine. L'Union européenne, 7%. Autre comparaison assez révélatrice, le budget total du CNRS en 2021 était de 3,5 milliards d'euros. Cette même année, Amazon a investi en recherche et développement 38 milliards d'euros, plus de 10 fois plus. Si on regarde les 10 premières capitalisations boursières mondiales dans le domaine des technologies, il n'y a pas une entreprise européenne. Donc dans ce domaine-là aussi, on est en train de sortir de l'histoire. Et donc on arrive à cette situation où, effectivement, vous l'aviez dit en propos liminaire, Arnaud, je crois qu'on peut dire qu'aujourd'hui, l'Europe n'est plus une puissance au sens où on le souhaiterait. Et donc la question qui se pose, c'est d'abord, est-ce qu'on souhaite redevenir une puissance ? Parce qu'il y a peut-être certaines personnes ici qui se disent, mais attendez, effectivement, on sort peu à peu de l'histoire, mais finalement l'Union européenne, depuis 75 ans, elle nous a offert quand même sur notre territoire une paix et une prospérité qui sont quasiment uniques dans notre histoire. Et donc finalement, est-ce que vouloir écrire l'histoire, vouloir être une puissance, c'est pas la nostalgie d'Européens qui aimeraient refaire vivre des temps glorieux ? Est-ce que c'est pas ça finalement ? On peut considérer que l'Europe, l'Union européenne, c'est quand même une civilisation qui, au cours des 75 dernières années, a eu un niveau de développement en termes de modèle de protection sociale, de civilisation des loisirs, qui n'a quasiment pas d'équivalent. Moi, je pense que ceux qui croient que l'Europe peut continuer d'être cet îlot de prospérité dans un monde en proie aux tempêtes, se trompe. Il se trompe lourdement. Et pour plusieurs raisons. D'abord, c'est une illusion de penser que les puissances tierces, la Russie de Poutine, la Turquie d'Erdogan, la Chine de Xi Jinping, vont nous laisser être cet îlot de prospérité. Le fait est que le modèle européen, parce qu'il incarne la démocratie, la place accordée à l'individu, l'héritage des Lumières, de l'humanisme, est une insulte à ce qu'ils sont et au modèle qu'eux-mêmes défendent. Et donc ce que l'on voit, c'est des stratégies d'influence qui se renforcent année après année, économiques, technologiques, en matière de défense, pour diviser les Européens, les affaiblir. Et ça, ça va continuer et ça va s'accentuer. Deuxièmement, il y a des tendances lourdes, économiques, climatiques, démographiques, qui nous mettent en situation de vulnérabilité. Juste un exemple. On parlait de l'Afrique tout à l'heure. L'Afrique, en 2050, ça sera 2,4 milliards d'habitants, c'est-à-dire trois fois plus que l'Europe. Ça veut dire qu'en un siècle, les rapports relatifs à la population mondiale de l'Afrique et de l'Europe se seront inversés. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à court terme, quelles que soient les politiques migratoires qu'on mettra en place, les flux migratoires, structurellement, vont augmenter vers l'Europe. C'est un premier point. Et donc ça va accroître la pression sur les sociétés européennes. Mais deuxièmement, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, l'immigration illégale est utilisée comme une arme par tous ceux qui veulent déstabiliser l'Europe. On l'a vu au moment de la crise syrienne, c'est l'arme qu'a utilisée Bachar el-Assad. Aujourd'hui, dès que les négociations se tendent sur n'importe quel sujet avec la Turquie, Erdogan menace d'ouvrir sa frontière et donc laisser 3,2 millions de réfugiés syriens qui sont aujourd'hui en Turquie aller vers l'Union européenne. Et l'Europe, face à ça, a été incapable de se préparer. Crise migratoire en 2015, on n'a toujours pas de politique migratoire commune au niveau européen. Toujours pas. Nos frontières sont toujours poreuses. Poutine l'a utilisé. Au niveau de la route de l'Arctique, avec la Finlande, il a laissé des flux de migrants, notamment afghans, entrer via la Finlande. Et plus récemment, on s'est même retrouvé sous la pression d'un pays comme la Biélorussie, la dictature de Loukachenko, qui a utilisé les flux de migrants, qui faisait venir des charters de Syriens, d'Irakiens, d'Afghans à Minsk, et ensuite les envoyer vers la Lituanie et la Pologne. Et à chaque fois, l'Europe est prise au piège. Et ça, ça va ne faire que s'accentuer. Donc, dans ce contexte-là, je pense que l'idée que nous pourrions être à la fois, finalement, une grande Suisse, ou une grande Allemagne pour les plus ambitieux, c'est-à-dire une puissance commerciale, puissance économique, mais nain géopolitique, c'est une illusion. Soit nous redevenons une puissance, et nous sommes capables d'écrire notre histoire. Et ça veut dire quoi, écrire notre histoire ? Ça veut dire transmettre nos valeurs, ce qui fait notre héritage aux générations suivantes. Soit nous devenons simplement les témoins d'un monde qui est dessiné par d'autres. Et donc c'est là que se pose la question.
La question du comment, voilà. Du comment, parce que d'abord, je pense qu'en fait, il faut en avoir le ressort, il faut en avoir effectivement l'envie, après, il faut en avoir l'organisation. On parlera après, il faut en avoir effectivement les leaders. Donc comment vous voyez la construction de cette Europe puissance ?
Je pense que d'abord, on va parler de politique étrangère européenne. Alors ça ne couvre pas tout, et évidemment, je pense que nos échanges ensuite nous permettront d'aborder peut-être d'autres thèmes. Mais si on s'intéresse à la diplomatie européenne, et pourquoi je parle de diplomatie européenne ? Parce que je suis convaincu que la plupart des grands enjeux aujourd'hui, on parle de la migration, mais on parle aussi en termes de puissance commerciale, de notre capacité à protéger nos citoyens des excès de la mondialisation, sur le plan climatique, sur le plan technologique, tous les grands enjeux appellent une réponse européenne aujourd'hui. L'échelon des États-nations est devenu trop petit. Donc il faut réfléchir en termes de diplomatie européenne. Et la diplomatie telle qu'elle s'est dessinée au cours des dernières années au niveau européen est ce que j'appelle une diplomatie des bons sentiments. Pour vous l'illustrer de manière très concrète, durant la crise syrienne, on avait une leader de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, qui chaque jour envoyait des communiqués outrés pour condamner les attaques effectivement barbares du régime de Bachar el-Assad ou d'autres contre son propre peuple. Et le soir, elle dormait avec le sommeil des justes, de ceux qui ont rempli leur tâche morale. Et moi, je trouve que par notre impuissance, notre politique étrangère était amorale. L'impuissance, à un moment donné, devient elle-même amorale. Et donc, je pense que plutôt que cette diplomatie des bons sentiments, il faut aller vers une diplomatie que je définirai plus tard, mais plus d'une réelle politique européenne. Et alors d'abord, on s'appuie sur des atouts. Il ne faut pas penser que l'Union européenne est dépourvue d'atouts. Premièrement, la diversité. Je pense que la diversité européenne est souvent vue comme, en matière de diplomatie, une faiblesse. Moi, je pense que c'est une erreur. Je pense que le fait, par exemple, d'avoir les Finlandais au sein de l'Union européenne, qui ont, de par leur histoire, une connaissance intime de la Russie, de ses dirigeants, de son fonctionnement, est un atout pour les Européens. Le fait d'avoir un pays comme l'Espagne, qui historiquement a une diplomatie très forte en Amérique latine, est un atout pour les Européens. Et donc, plutôt de constamment opposer diplomatie nationale, diplomatie européenne, il y a une vraie question qui est comment on s'appuie sur cette diversité. Il y a une très belle phrase de Mauriac qui disait « L'Europe est cette terre sacrée où les sources du génie humain français, italien, allemand, anglais, flamand, espagnol, slave, sans se confondre, ont jailli si près les unes des autres. » Et je trouve que cette phrase de François Mauriac est très belle, parce qu'il ne parle pas d'un bouli-boulga d'identité européenne. Ce qu'il dit, c'est qu'il y a des génies nationaux, et comment on les met ensemble pour créer quelque chose de plus fort au niveau européen. Deuxièmement, un autre atout de l'Europe, c'est son histoire plurimillénaire. L'Europe, c'est une civilisation. C'est des siècles d'histoire, de zones d'ombre parfois, de moments plus lumineux de notre histoire, mais ça donne aux Européens un sens du temps long, un sens du tragique, qui sont plus que jamais indispensables à un moment où l'histoire, justement, revient avec tout le tragique qu'elle porte en elle. Troisièmement, c'est des points qui sont quand même essentiels. Aujourd'hui, l'Union européenne, c'est la première puissance commerciale mondiale. C'est la première puissance en matière d'aide publique au développement. C'est des atouts sur lesquels on devrait bâtir une diplomatie européenne beaucoup plus forte. Et quatrièmement, l'Europe, c'est une puissance normative. Et moi, je ne le vois pas de manière négative. Ce que je vois dans mon quotidien, dans mon travail, c'est que de Washington à New Delhi, en passant par Canberra, Brasilia ou Ankara, tous les leaders économiques, politiques, regardent comment aujourd'hui l'Union européenne définit la norme. Et ce qu'on appelle, en fait, ce qui a été théorisé comme étant l'effet Bruxelles, par une professeure de Columbia qui s'appelle Anu Bradford, c'est cette idée que la législation européenne inspire aujourd'hui les législations à travers le monde entier. Et c'est essentiel, parce que les standards, les normes, ça reflète des valeurs, ça reflète une vision de l'individu. Lorsque vous définissez les règles qui s'appliqueront à l'intelligence artificielle ou aux algorithmes, c'est votre vision de l'individu que vous projetez. Et donc, il est absolument essentiel que cette puissance normative, l'Union européenne, la conserve. Mais pour que ces atouts qui existent se transforment en une politique de puissance, il faut que l'Union européenne lève un certain nombre d'obstacles. Le premier de ces obstacles, c'est que l'Union européenne doit enfin s'appuyer sur une diplomatie européenne digne de ce nom. Aujourd'hui, c'est assez peu connu, mais il y a une sorte de quai d'Orsay européen, un service diplomatique européen, celui que j'ai servi, qui s'appelle le Service européen pour l'action extérieure. Il a été créé en 2010. Il a aujourd'hui des ambassades dans tous les pays du monde. Il a des ambassadeurs dans tous les pays du monde. Mais pendant trop longtemps, les diplomaties nationales n'ont pas joué le jeu. Et de la même manière qu'au Parlement européen, on envoie souvent les battus de la politique nationale, ou les rivaux qu'on veut envoyer au loin, c'est quand même un grand mal français. De la même manière, au service diplomatique européen, le Quai d'Orsay n'a pas du tout joué le jeu. Il l'a vu de manière jalouse comme un service diplomatique qui lui ferait de l'ombre. Il n'a pas du tout encouragé les jeunes diplomates français brillants à aller servir ce service diplomatique européen. Et c'est incroyablement dommage, parce que la France aurait pu apporter à ce service diplomatique une culture stratégique, qui fait parfois défaut à d'autres pays européens. Deuxièmement, on a vu l'influence de la France se réduire considérablement au niveau européen. Mais surtout, on a une diplomatie européenne qui, aujourd'hui, joue bien en dessous de ce qu'elle pourrait faire. Quelques éléments symboliques aussi sur cette diplomatie européenne. Plutôt que d'appeler les ambassades de l'Union européenne ambassades, on les a appelées délégations. Et donc, ça crée un problème d'incarnation, ça crée un problème aussi de lien avec nos concitoyens. Et la personne qui est à la tête de cette diplomatie européenne, plutôt que de l'appeler, comme c'était prévu à l'origine, ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne, les ministres des Affaires étrangères des États membres, par jalousie, par souci de conserver leurs prérogatives, l'ont appelé haut représentant pour la politique étrangère de défense et de sécurité. Si vous vouliez trouver un nom qu'aucun de nos citoyens était capable de se remémorer, vous n'auriez pas trouvé mieux. Et donc, on paie le prix de ça. Donc la deuxième chose, c'est comment on investit dans cette diplomatie européenne. Troisièmement, un obstacle d'ordre institutionnel. Aujourd'hui, la politique étrangère au niveau européen se décide à l'unanimité. Et c'est un vrai problème, parce que contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas une manière de garder pour la France, par exemple, un droit de veto. Dans les faits, l'Union européenne fonctionne de telle sorte aujourd'hui que la France a un tel poids démographique qu'elle ne serait jamais mise en minorité. L'unanimité en politique étrangère, c'est un droit de veto qu'on donne aux petits États membres, dans les faits. Donc c'est un veto que vous donnez à Chypre, à Malte, à des pays comme cela. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, la Hongrie d'Orban est capable de bloquer des mesures à l'égard de la Chine, parce que le régime d'Orban est lui-même corrompu, notamment par les nouvelles routes de la soie, parce qu'il reçoit des fonds également du Kremlin. C'est ce qui fait aussi que Chypre a bloqué pendant des mois les sanctions à l'égard de la Biélorussie, pour quelque chose qui n'avait rien à voir avec la Biélorussie. Simplement, Chypre voulaient un élément de langage différent par rapport à la question turque. Et donc, leur manière de bloquer les négociations sur la question turque, c'était de bloquer les sanctions sur la Biélorussie. Et donc, c'est l'Union européenne dans son ensemble qui se retrouve otage de ces logiques et donc qui perd sa crédibilité au niveau international. Donc, il faut passer, et ça, c'est absolument indispensable, la politique étrangère à la majorité qualifiée. Troisièmement, je disais tout à l'heure, politique commerciale, politique d'aide au développement sont des atouts pour la diplomatie européenne. Le problème, c'est que la diplomatie européenne aujourd'hui, elle est développée en silos. Vous allez à Bruxelles, vous avez une direction générale à la Commission européenne qui s'occupe de la politique commerciale. Est-ce qu'elle dialogue avec le Service européen pour l'action extérieure, donc la diplomatie européenne ? Quasiment pas. La politique d'aide au développement, ça devrait être un de nos principaux leviers lorsqu'on développe une politique migratoire européenne, parce que par définition, on sait très bien que par rapport notamment au pays d'origine des migrants, c'est un de nos vrais leviers, la politique. Est-ce que les directions à la Commission européenne qui s'occupent de la politique migratoire et la politique d'aide au développement travaillent ensemble, définissent leur politique ensemble ? Pas du tout. Récemment, on l'a vu sur la politique énergétique. On voit bien que toute la crise ukrainienne, il y a la question énergétique qui se pose. Aujourd'hui, celui qui dirige la diplomatie européenne, M. Borrell, n'a aucune autorité sur la manière dont la politique énergétique européenne se dessine. Tout est décidé en silo. Donc il y a là une vision d'ensemble qui doit se mettre en place. Et puis, ensuite, je pense qu'il y a la question, évidemment, de la puissance militaire, qu'on ne peut pas négliger. C'était Kissinger qui écrivait qu'au cours de l'histoire, l'influence des nations a été à peu près corrélée à leur puissance militaire. Juste quelques chiffres qui rappellent la situation où on est. Lors du sommet de Newport en 2014 au Pays de Galles, sommet de l'OTAN, les pays de l'Alliance se sont engagés à atteindre 2% de leur PIB en dépenses de défense. Vous allez me dire, c'est un critère qui est critiquable, qui a ses limites, etc. Il n'empêche que ça donne quand même une vision d'ensemble d'à peu près ce qu'on investit en matière de défense. Aujourd'hui, la moyenne, d'après les chiffres d'Eurostat dans les pays de l'Union européenne, c'est 1,2%, ce que dépensent les pays de l'Union européenne en moyenne en matière de défense. Un pays comme l'Irlande, 0,4%. Un pays comme l'Allemagne, 1,4%. Si on prend l'ensemble des pays européens, de l'Union européenne, en 2021, ils ont dépensé 193 milliards d'euros en matière de défense. La Chine, 240. Les Américains, 675 milliards. Donc on est à des années-lumière. On peut tourner l'équation comme on veut. Il faut qu'on dépense plus en matière de défense. C'est indispensable. Alors ensuite, quand on parle de défense, on parle souvent, on se perd dans des grands concepts. On parle d'autonomie stratégique européenne, de souveraineté européenne, etc. Autant de concepts qui, à mon avis, nourrissent beaucoup de think tanks, permettent à beaucoup de chercheurs de faire des conférences à travers le monde, mais dans les faits, permettent pas vraiment d'avancer. Je pense qu'il faut être beaucoup plus pragmatique et beaucoup plus concret dans la manière dont on avance sur les questions de défense, et notamment sur la question de l'OTAN. Il faut arrêter d'opposer Europe de la défense et OTAN. Le fait est que l'OTAN va demeurer, par définition, notre garantie de sécurité au niveau de l'Europe, dans le moyen et dans le long terme, parce que c'est là, aujourd'hui, qu'il y a les dépenses de défense. Mais ça ne veut pas dire que nous, Européens, on ne doit pas plus investir en matière de défense et être plus autonome dans notre capacité à intervenir, notamment dans notre voisinage et notamment en Europe. Parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer aux États-Unis. Et si en 2024, il y a un nouveau président plus isolationniste qui est élu aux États-Unis, il faut que l'Europe se soit préparée à cela. Donc là-dessus, il faut faire quelque chose. Mais je pense qu'une erreur qu'a souvent commise la France en matière de défense, c'est de vouloir convaincre les pays, notamment d'Europe de l'Est, de se mettre sous un parapluie de défense européen, alors qu'au fond, on n'est pas capable de leur apporter les garanties. Posons-nous juste une question. Si demain la Russie envahit la Lettonie, la Lituanie ou l'Estonie, est-ce que nous, Français, on va envoyer nos enfants se faire tuer contre des soldats russes ? Si vous n'êtes pas sûr de la réponse, ne demandez pas à des Baltes ou à des Polonais de l'être pour vous. C'est absolument essentiel. Et donc, plutôt que de seriner nos partenaires d'Europe de l'Est sur la souveraineté européenne, sur l'autonomie stratégique européenne, essayons déjà dans un premier temps de rebâtir de la confiance avec eux en développant notamment des exercices militaires conjoints et des manœuvres conjointes pour petit à petit regagner leur confiance et leur donner le sentiment qu'on sera à leur côté en cas de temps difficile. Donc je pense que le domaine de la défense est absolument essentiel et sur le domaine de la défense, un autre point, c'est que je pense qu'on ne pourra pas parler d'une politique européenne de la défense sans le Royaume-Uni à terme. On peut penser ce qu'on veut du gouvernement britannique, mais le fait est que la seule puissance militaire crédible en Europe avec la France, c'était le Royaume-Uni jusqu'à présent. Que Boris Johnson, en 2020, a annoncé une augmentation du budget de défense du Royaume-Uni de 16,5 milliards de livres, ce qui est la plus grande augmentation depuis la fin de la guerre froide. Et donc, le Royaume-Uni va devenir un partenaire clé et doit devenir un partenaire clé. Et donc, je pense que ça, c'est aussi quelque chose sur lequel on doit avancer. Enfin, avant de conclure cette intervention, Arnaud, vous parliez de la question de l'incarnation.
Oui, c'est important parce que là, vous dites politique étrangère commune, politique de défense commune. Par définition, ce sont des pouvoirs régaliens. Ça veut dire qu'on transfère effectivement le roi ou l'autorité suprême, effectivement, du national, donc au supranational. Et comment on peut imaginer ça et avec quel leader ?
Moi, quand j'ai écrit le livre sur Kissinger, ce que je voulais, c'était dessiner en filigrane le portrait de celui qui pourrait demain, justement, articuler, diriger la politique étrangère de l'Union européenne. Et je crois que ce qui caractérise Kissinger et ce que j'ai aimé chez lui, c'est qu'il accepte que le monde n'est pas manichéen. Il est fait de nuances de gris. C'était Mitterrand qui disait « ma politique est tressée de fils noirs et de fils blancs ». Elle est faite de gris. Moi, je crois beaucoup dans ça. C'est-à-dire que je pense que la réelle politique, telle que l'avait comprise Kissinger, c'est accepter que une politique étrangère digne de ce nom, elle n'est pas uniquement basée sur les bons sentiments, elle n'est pas uniquement basée sur la morale, mais elle est basée sur des choix difficiles. Et finalement, elle suppose des hommes d'État qui ont une vision du temps long, qui ont une colonne vertébrale intellectuelle et humaine. Et c'est aujourd'hui tout le contraire de ce qu'on a au niveau européen. Aujourd'hui, on a des dirigeants européens qui sont les produits de la société de l'instantané, des réseaux sociaux, etc. Et j'aimerais revenir à une figure. Quand on parle de Kissinger, on parle souvent de Metternich et de Talleyrand, deux figures évidemment qui l'ont beaucoup inspiré. Mais il y a une autre figure, à mon avis, dont il était encore plus proche, qui était britannique, qui s'appelle le vicomte de Castlereagh, qui est une figure que nous, on a un peu oubliée. Castlereagh, ça a été le plus grand ministre des Affaires étrangères britannique, probablement de l'histoire. Il a dirigé la diplomatie britannique entre 1812 et 1822. C'est lui qui a bâti les fondements de la puissance britannique au XIXe siècle. C'est lui qui, par son système d'alliance, par sa vision stratégique, a contré en grande partie Napoléon. Et Castlereagh, c'était un réaliste. Et c'était quelqu'un, il faut le savoir, même si ça a été un des plus grands hommes d'État britannique, qui était haï par l'intelligentsia de son temps, haï par les libéraux britanniques. C'était Lord Byron qui le définissait comme un mécréant au sang visqueux. Lorsqu'il rentrait chez lui le soir, Castlereagh, il avait beau avoir fait des prouesses en matière de diplomatie pour son pays, pour sa puissance, on lui jetait des pierres, on jetait des pierres sur sa maison, on lui crachait dessus. Et pendant 10 ans, il a suivi ses convictions, il est allé au bout, il a dessiné ce qu'il pensait être le mieux pour son pays. Et à la fin, il avait quand même subi énormément de calomnies, il a fini par se suicider en 1822. Mais pendant ces 10 ans, il a dessiné ce qui allait être sa grande puissance, la grande puissance britannique. Et je pense que Kissinger, ce que je respecte énormément chez lui, c'est que c'est un homme qui a fait des choix, pour en parler, mais politique de détente et bien d'autres, qui ont été extrêmement critiqués par ses contemporains, qui lui ont valu la haine de toute l'intelligentsia américaine, mais il les a fait parce qu'il pensait que c'était ce qu'il y avait de meilleur pour le long terme. Et je pense que c'est ce que l'Union européenne a besoin aujourd'hui, des hommes d'État qui acceptent de mettre leur popularité de côté pour dessiner une vision stratégique pour leur pays. Et juste, je terminerai sur un point. Je pense qu'il y a une anecdote en 2019, qui est passé complètement sous le radar des médias, mais qui m'avait frappé. Xi Jinping est venu en visite d'État en Grèce. Et lors du discours qu'il prononce, c'était son dernier déplacement en Europe, Xi Jinping a dit « Nous, Chinois et vous, Européens, nous partageons une chose en commun. Nous sommes une civilisation. » Et je pense qu'en disant ça, il y avait quelque chose de tragique, que ce soit lui, le dirigeant d'une puissance tierce, la Chine, qui fait tout pour nous affaiblir à travers les nouvelles routes de la soie, à travers ces stratégies de division, le format 16+1, etc., qui essaient de diviser les Européens, qui nous rappellent qui nous sommes. Oui, les Européens, nous sommes une civilisation. Et c'est probablement notre plus grand atout. Et je pense que l'Europe fait une erreur colossale en pensant que son histoire commence le 9 mai 1950 avec le projet de l'Union européenne. Non. L'Europe, c'est des siècles d'histoire. Entre la construction du Parthénon et aujourd'hui, c'est 24 siècles d'histoire. Et je pense que notre politique étrangère européenne, elle doit se construire sur ces 24 siècles d'histoire. On n'arrivera à développer une vision stratégique que si on est capable d'embrasser tout ce qui fait la complexité de notre histoire, mais aussi la force de notre diplomatie, et notamment renouer avec ce qui a fait les grandes heures de notre diplomatie, notamment au XIXe siècle, avec des figures comme Castlereagh, comme Talleyrand, comme Metternich. Voilà. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Jérémy, à la fois pour cette fresque, ces perspectives. Je suis sûr que votre intervention va soulever beaucoup de questions. Donc, qui prend la première, qui est toujours la plus difficile à poser ?
Oui, vous n'avez pas du tout parlé du rapport entre les États-Unis et l'Europe. La question que je voudrais vous poser, faut-il s'affranchir des États-Unis et essayer de construire une Europe indépendante? Parce qu'on a toujours eu l'impression que les Américains étaient plutôt contre l'Europe.
C'est effectivement une très très bonne question. Moi, je considère que on peut tout à fait considérer, et je pense que De Gaulle, par exemple, c'était sa vision, que les États-Unis sont notre principal allié. Parce qu'on partage, au fond, malgré toutes les faiblesses de la démocratie américaine, une certaine vision de l'individu, une certaine vision de l'homme, que aussi, ce sont les héritiers des Lumières, que ce sont une démocratie, et que dans le monde actuel, les démocraties demeurent quand même une minorité. Et donc, qu'il faut, lorsqu'on le peut, travailler main dans la main avec les Américains, que ce soit dans le domaine de la défense. On le voyait, par exemple, en Afrique subsaharienne, au Mali, on s'est beaucoup appuyé sur les services de renseignement américains, que ce soit dans le domaine des normes, des standards. On le voit aujourd'hui, il y a notamment, par exemple, un forum qui s'appelle le Trade and Technology Council, où sont dessinés les standards, les normes en matière commerciale, technologique, et les Européens, justement, les Américains travaillent ensemble pour être capables d'avoir la taille critique pour ne pas subir les standards ou les normes chinoises. Donc je pense qu'il faut travailler quand on peut ensemble, mais en même temps savoir que parfois nos intérêts divergent, qu'il y a une Europe qui a sa culture qui est propre, qui a ses intérêts qui lui sont propres et qui ne sont pas toujours alignés avec les États-Unis. Et que par ailleurs, les Américains sont dans une perspective de long terme, à mon avis dans une perspective isolationniste, que la période Biden, quelque part, est une parenthèse, que Biden, finalement, est un peu une exception aujourd'hui. Parce que Biden, c'est une de ces vieilles figures du Sénat américain qui a des racines européennes, etc. Mais aujourd'hui, la tendance de long terme, quand vous allez à Washington, dans les couloirs du département d'État, du Congrès, de la Maison-Blanche, c'est que vous voyez une Amérique qui est beaucoup plus diverse, beaucoup moins européenne dans sa culture, où il y a beaucoup plus, par exemple, de jeunes élites politiques qui sont latinos, qui sont asiatiques, qui sont afro-américaines, et qui donc, intellectuellement, c'est pas qu'elles veulent se détourner de l'Europe, mais c'est qu'elles n'ont pas ce lien intime avec l'Europe. Et que je pense qu'il ne faut jamais oublier qu'on sort de 50 ans où ceux qui ont dessiné la diplomatie américaine étaient des gens qui avaient un lien très fort avec l'Europe. Juste trois figures. Kissinger, évidemment, on l'évoquait. Mais Madeleine Albright était une immigrée première génération tchèque. Brzezinski, l'homme clé de la politique étrangère de Carter, était un immigré première génération polonais. Donc c'est des gens qui avaient un lien intime avec l'Europe. Aujourd'hui, les Européens doivent comprendre qu'il y a une nouvelle génération, une nouvelle élite américaine qui est moins liée à l'Europe. Et donc nous, il faut qu'on se prépare à ça. Et ce qui me navre au niveau européen, c'est que quand Trump a été élu, les Européens ont dit « Ah là là, il faut absolument qu'on retrouve notre indépendance, notre autonomie par rapport aux États-Unis, qu'on se prépare finalement, non pas à contrer les États-Unis, mais à avoir notre capacité autonome propre. » Et quand Biden est élu, on a une mémoire de poisson rouge, on oublie tout et on va se réfugier dans les bras de l'allié américain. Et ça, je pense que c'est une erreur.
Merci beaucoup pour votre exposé. Vous avez parlé beaucoup de diplomatie et vous l'avez servi. Pour les jeunes d'aujourd'hui, qu'ils soient ados ou jeunes adultes, quelles sont les différentes voies, enfin j'imagine qu'il y en a plusieurs, pour devenir diplomate, à la fois en termes d'études et puis en termes de premières expériences professionnelles?
Oui, alors on pourra, si vous voulez, en parler en détail ensuite. Très rapidement, je pense qu'il y a aujourd'hui deux grands services diplomatiques. Vous avez soit la voie du Quai d'Orsay. Donc vous avez des concours qui sont propres au Quai d'Orsay et vous pouvez rentrer donc dans le corps diplomatique français, soit vous allez dans le service européen pour l'action extérieure, qui est donc le corps européen. Et là, vous avez des recrutements, soit via les concours européens, soit via des voies d'entrée externes. Mais je crois que ce qui est important, et j'utilise votre question pour rebondir sur aussi la question des passerelles entre diplomatie française et diplomatie européenne, ce qu'il faut, c'est qu'on incite nos jeunes diplomates à aller un moment servir la diplomatie européenne, non pas pour les perdre à terme, mais je pense qu'on sera renforcés, nous, en tant que diplomatie française, si nos jeunes diplomates sont allés se confronter à la diplomatie européenne, ont compris comment la diplomatie européenne fonctionnait de l'intérieur, et ensuite reviennent servir la diplomatie française en étant conscients des forces, des faiblesses de la diplomatie européenne, et peuvent justement mieux articuler diplomatie nationale et diplomatie européenne. Et je pense que là, c'est un des vrais enjeux. Et juste, votre question soulève aussi un autre point, qui est que vous avez probablement vu qu'il y avait une réforme du service diplomatique français au cours des très récemment. Moi, je ne fais pas partie des gens qui pensent que tout devrait rester comme c'était avant. Je pense qu'on a un peu caricaturé le débat. Je pense que le service diplomatique français avait besoin d'être réformé. Le problème, c'est qu'on n'est pas allé au bout de la réforme. On s'est arrêté à mi-chemin dans cette réforme. Moi, qu'on ouvre le service diplomatique français à des personnes au profil extérieur, je trouve que c'est une très bonne chose. Le problème, c'est qu'on ne l'a pas fait à l'anglo-saxonne. là, aujourd'hui, la principale différence, c'est que on dit, voilà, vous êtes inspecteur des finances, vous êtes conseiller d'État, demain, vous pouvez devenir ambassadeur de France. C'est grosso modo, c'est ça le sens de la réforme. Alors qu'à mon avis, ce qui aurait été intelligent, c'est de dire, demain, vous êtes un universitaire, vous êtes un Kissinger français, vous voulez aller servir la diplomatie française, aller lui apporter votre expertise, par exemple, vous êtes un spécialiste de la Chine ou de l'Inde, vous voulez apporter pendant quelques années votre expertise à la diplomatie française, vous pouvez le faire. Vous avez une expertise dans le domaine économique, vous êtes un chef d'entreprise, vous voulez aller servir la diplomatie économique, vous pouvez le faire. C'est ça que savent très bien faire les Américains. Et c'est ça ce que, aujourd'hui, malheureusement, on ne sait pas faire, et c'est là où on n'est pas allé au bout de la réforme.
Juste une petite question. Je crois ici que tout le monde va être très fier de connaître Jérémy et de l'avoir écouté. Est-ce que vous n'êtes pas tenté par une implication plus... pour devenir, par exemple, président de la République ? On ne sait jamais. Non, mais je veux dire, est-ce que vous avez une ambition politique qui ferait en sorte que des gens brillants comme vous puissent aider encore plus efficacement notre pays ?
Je pense que la question que vous posez, François, c'est la question de l'engagement politique. Et c'est une question qui, je trouve, est très compliquée parce que, d'un côté, moi, j'ai toujours considéré qu'avant de s'engager en politique, quelles que soient ses convictions, il faut être allé se nourrir d'expérience ailleurs. Il faut avoir bâti une légitimité professionnelle, intellectuelle, etc. Ce que je dis de Kissinger, c'est que c'est un intellectuel homme d'action. Moi, je pense que Kissinger a été capable de changer la diplomatie américaine parce que c'est quelqu'un qui est arrivé au pouvoir, il avait 50 ans. C'est pas quelqu'un qui arrive au pouvoir à 30 ans, c'est pas juste un jeune brillant. C'est quelqu'un qui, pendant 20 ans à Harvard, s'est nourri de textes, s'est construit intellectuellement, a noué des amitiés avec Aron, avec Hannah Arendt, avec Hans Morgenthau. C'est quelqu'un qui a aussi eu une vie privée où il a connu des épreuves. Il a connu la Shoah, Kissinger, ça l'a forgé. Et donc c'est pour ça qu'il a été capable de changer les choses. Et je pense qu'aujourd'hui, on vient un peu à l'ère des météores. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la question en France ou dans d'autres pays européens, c'est arriver le plus vite, le plus haut possible. Et le résultat, c'est quoi ? C'est des gens qui passent au pouvoir comme des météores et qui disparaissent après quelques années sans avoir laissé leurs traces. Et donc je pense qu'il faut, il faut construire ça. Une autre question, et je l'anticipe, que m'a posé Arnaud lorsqu'on s'est vu il y a quelques jours, c'était, mais est-ce qu'on... Finalement, on ne pourrait pas vous dire, aujourd'hui, vous travaillez pour une firme américaine et quelque part, c'est paradoxal parce que vous voulez servir l'Europe demain. Et moi, ce que je lui ai dit, c'est que je l'assume complètement. Moi, je travaille aujourd'hui pour une firme américaine. J'ai étudié en Chine, j'ai étudié aux États-Unis parce que je considère que si on veut demain être capable de servir notre pays et l'Europe, il faut être allé voir ce qui se faisait ailleurs. Il faut être allé se nourrir d'expériences et de cultures différentes. Mais de la même manière que pour les jeunes diplomates français qui vont au SEE, l'idée, c'est un moment de revenir et d'apporter. Alors ensuite, est-ce que moi, à titre personnel, je le ferai ? C'est autre chose. Mais je pense que plus généralement, c'est si demain, il y avait un jeune de 20 ans qui me disait qu'est-ce que je dois faire ? Je lui dirais, mais pars à l'étranger, va te nourrir d'autres expériences et ensuite reviens.
Vous avez parlé tout à l'heure de ces choix à contre-courant, visionnaires. Et je voulais vous interroger sur la relation entre l'Europe et la Russie. Parce qu'au cœur de la puissance, il y a l'indépendance énergétique. Et notre partenaire naturel, géographique en tous les cas aujourd'hui, c'est plutôt la Russie. Alors que pensez-vous de cette thèse qui dit que les États-Unis en fait, ont œuvré sur les 30-40 dernières années à éloigner l'Europe de la Russie et qu'aujourd'hui la guerre en Ukraine, que l'Ukraine est instrumentalisée en fait, pour accroître cette fracture ?
Je pense que c'est un débat qui susciterait beaucoup de passion et je pense que ça supposerait qu'on rentre dans le détail de toutes les discussions, les négociations au cours des 30 dernières années entre les États-Unis, l'Europe, la Russie, etc. Moi, je pense que si on se projette dans une perspective plutôt de long terme, effectivement, vous l'avez dit, la Russie, à terme, de toute façon, va toujours demeurer notre voisin. Donc il faut qu'on pense à long terme à comment bâtir une relation avec ce pays. Alors ensuite, la question, c'est est-ce que aujourd'hui, on peut le faire du fait de la situation en Ukraine, du fait des crimes de guerre qui ont été commis, du fait du régime poutinien qui est un régime quasi mafieux. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut le faire ? Moi, je ne le pense pas. Mais à long terme, évidemment, il faut bâtir quelque chose. Sur le plan énergétique, je pense qu'évidemment, il y a un lien qui doit se faire avec la Russie. Mais ce qu'on paie aussi, c'est surtout nous. Ce n'est pas, à mon avis, on peut blâmer les Américains. Mais ce qu'on paie surtout aujourd'hui sur la situation en Ukraine, c'est nous, notre impotence et notre inconséquence européenne. C'est le fait d'être devenu complètement dépendant énergétique d'une seule puissance. C'est ça le vrai problème aujourd'hui des Allemands. C'est de ne pas avoir diversifié nos sources énergétiques. Ça, c'est un vrai problème. C'est le fait, par exemple, de ne pas avoir investi dans l'outil de défense, on le disait tout à l'heure, qui fait qu'on est extrêmement vulnérable. Donc pour moi, la vraie question par rapport à la Russie, c'est que la crise actuelle, elle met en avant plutôt que se poser la question de est-ce que c'est plutôt les États-Unis, la Russie, c'est nous, qu'est-ce qu'on a mal fait depuis 20-30 dernières années pour nous retrouver dans cette situation. Et je pense que le modèle de ce qui s'est passé en Allemagne est une catastrophe sur le plan économique et énergétique. Certaines décisions prises par Merkel sur le nucléaire ou sur autre sont absolument dramatiques et les Allemands vont en payer le prix pendant très longtemps, mais sur le plan de la défense aussi aujourd'hui on en paye le prix. Donc voilà, ensuite sur la Russie, à terme, on pourrait en parler pendant très longtemps. Je pense que par définition, il faudra qu'on arrive à rebâtir une architecture de sécurité européenne avec la Russie, évidemment. Et en 2014, Kissinger avait écrit un article qui était très intéressant dans le Washington Post là-dessus. Et c'est intéressant parce que pour une fois, il était d'accord avec Brzezinski. Il y a peu de sujets sur lesquels ils étaient d'accord, mais ils étaient ensemble d'accord là-dessus. Et les deux disaient en 2014, quoi qu'il advienne en Ukraine, il faudra quand même penser à une architecture de sécurité européenne qui, à terme, intègre la Russie. Parce qu'on ne peut pas avoir un État paria comme la Russie à terme aux portes de l'Europe.
Sur la construction de l'Europe, on peut peut-être comparer l'histoire des États-Unis et celle de l'Europe. Les États-Unis, on a un recul de 2,5 siècles, l'Europe, 3/4 de siècle. Mais il me semble qu'il y a quand même des parallèles entre les deux constructions. Les États-Unis sont construits lentement, difficilement. Il y avait la lutte entre les institutions fédérales et les États. Et je crois que l'Europe, de ce point de vue-là, va beaucoup plus vite que les États-Unis. Et est-ce qu'on peut trouver des motifs d'optimisme ?
Alors, moi, vous l'avez compris, hein, je suis, et Arnaud le disait en introduction, passionnément pro-européen, mais je ne suis pas fédéraliste. Je crois que aujourd'hui, la question, c'est plutôt de savoir qu'est-ce qui est pertinent à un échelon européen. Politique étrangère, politique de défense, politique d'innovation. Qu'est-ce qui doit rester au niveau national, voire même au niveau plus local, parce que je pense que c'est un vrai problème français, on est beaucoup trop jacobin. Et donc je pense que c'est un peu la dynamique au niveau européen. Par ailleurs, contrairement aux États-Unis, on a quand même des États qui ont une histoire en Europe, je le disais, pluriséculaire, voire plurimillénaire. Il y a des identités nationales extrêmement fortes, construites aussi autour du langage, qui font qu'on n'arrivera jamais à ce niveau. Et personnellement, moi, je ne le souhaite pas. Je ne souhaite pas être les États-Unis d'Europe. Je pense que la question, c'est comment on bâtit une Europe puissance. Et donc, avec notamment la question qui se pose, c'est aujourd'hui, est-ce qu'il faut toujours aller vers un élargissement constant ? Là-dessus, moi, je suis très critique. Par exemple, je sais que c'est probablement pas très populaire, mais je pense qu'aujourd'hui, ouvrir le processus d'adhésion à l'Ukraine, je comprends que sous l'impact de l'émotion, ça a été fait. Mais je pense qu'on fait une erreur. À un moment donné, la priorité, c'est la question de l'intégration européenne. Comment on intègre plus les États membres qui sont en son sein ? Et on voit déjà qu'à 27, c'est compliqué. Demain, vous faites rentrer l'Ukraine, qui est un pays de 40 millions d'habitants, qui est très loin en termes d'institutions démocratiques, de lutte contre la corruption, etc. Ça va être extrêmement compliqué. Vous prenez le risque de la dilution du projet européen. C'est pour ça que le projet de Confédération européenne, qui était de dire on a ce bloc de l'Union européenne, et à côté, sur le plan géopolitique, en revanche, on met à bord des régions comme les Balkans, ça me paraissait beaucoup plus pertinent. Parce que l'autre effet pervers de l'Ukraine, de l'adhésion de l'Ukraine, c'est qu'aujourd'hui, ça va être extrêmement compliqué de dire à des pays comme l'Albanie, le Monténégro ou la Macédoine, non, vous n'entrez pas dans l'Union européenne. Et donc, vous allez avoir un élargissement massif avec des pays qui sont par ailleurs eux-mêmes très soumis à l'influence russe, turque ou chinoise. Et donc, vous créez une vulnérabilité interne. Et on le voit quotidiennement avec la Hongrie aujourd'hui. Donc là, je pense qu'il y a une erreur. C'est un point de vue personnel, une erreur très grande qui a été commise.
Sur le même sujet, je crois, est-ce que vous croyez à l'idée qui avait été proposée peut-être par le président Macron d'une strate avec 7, 8, 10 pays qui s'occuperaient d'un certain nombre de sujets majeurs ou prioritaires et qui essaieraient d'emmener tous les autres ?
Oui, je pense que c'est effectivement une idée, et c'est une idée qui existe dans les traités. C'est l'idée de coopération renforcée. Vous avez besoin de 9 États membres qui peuvent avancer. Et ensuite, qui peuvent être suivis par les autres États membres. Je pense que ça, c'est une bonne idée. Je pense qu'on devrait l'utiliser plus souvent. Je pense que cette idée de confédération européenne avec une Union européenne, et puis finalement, c'était un peu cette idée au niveau du continent européen, développée au niveau du continent européen, était bonne. Mais pour moi, c'est un cas d'école, ce qui s'est passé sur la confédération européenne. L'idée est bonne, mais comme souvent, la diplomatie française, que ce soit le président Macron ou ses prédécesseurs, plutôt que d'aller dans les différents pays européens et de convaincre nos partenaires européens de l'idée et de les mettre à bord et ensuite de les amener à endosser l'idée et de s'en sentir propriétaire, fait un grand discours au Parlement européen dans lequel il dit ce sera comme ça. Si vous voulez antagoniser vos partenaires européens et tuer une idée, vous ne pouvez pas faire mieux. Et donc là, c'est un vrai sujet de la diplomatie française au niveau européen. C'est comment parfois on accepte de moins prendre la lumière, mais de bâtir des coalitions et d'aller convaincre nos partenaires d'Europe centrale et d'Europe de l'Est. Je vais juste vous raconter une anecdote. J'avais un ami qui a assisté au cours des dernières années à peu près à tous les conseils européens. Donc ces réunions des 27 chefs d'État membres de l'Union européenne. Il était dans la salle, c'était un des conseillers diplomatiques. Et il me disait quand il y avait Merkel, c'était toujours le même scénario qui se jouait. Le président de la République française arrivait, faisait un exposé brillant. Trois parties, très structurées à la française, absolument brillant. Mais comme me disait mon ami, qui n'était pas français, il dit « Mais tu comprends, hein, quand tu es chef d'État d'un autre pays, tu n'aimes pas trop qu'on te fasse la leçon. Et même si l'exposé est brillant, à la fin, tu n'as pas envie d'être convaincu. » À l'inverse, Merkel arrivait, et avant d'entrer dans la salle du Conseil, elle avait échangé par SMS, où elle avait eu des réunions bilatérales avec l'ensemble de ses homologues. Elle connaissait tous leurs contraintes en matière de politique intérieure, là où ils pouvaient aller, jusqu'où ils pouvaient sacrifier, etc. Et à la fin, très souvent, la négociation, c'est elle qui l'emportait.
Oui, merci pour votre exposé. Je voulais revenir sur la question de la défense que vous avez longuement évoquée avec les budgets qui n'atteignent pas 2%, effectivement. Est-ce que ce n'est pas un peu une équation impossible ? Parce que je ne me souviens plus exactement de la date, mais je crois que c'est en 1954 que la France avait refusé la communauté européenne de défense, c'est ça. Voilà. Et aujourd'hui, on est dans quelle situation ? En fait, il n'y a que deux puissances, deux armées, vous l'avez rappelé, il y a l'Angleterre, le Royaume-Uni et la France qui ont des véritables armées qui peuvent projeter leurs forces à l'extérieur. Ce sont les deux seuls aussi qui sont dotés d'une arme nucléaire, ce que les autres n'ont pas. La France est le seul pays à avoir un siège au Conseil de sécurité également, ce que les autres n'ont pas. Il n'y a pas d'interopérabilité aujourd'hui entre les différents types d'armes, on voit bien. Ensuite, il y a un certain nombre de pays, vous l'avez évoqué, qui sont plutôt soumis à l'influence américaine à travers l'OTAN, d'autres qui sont même proches de la Russie, vous avez parlé de la Hongrie. Est-ce qu'on n'est pas véritablement dans un type de construction de défense dont on ne voit pas très bien quelle pourrait être l'issue, parce que les contradictions sont telles que c'est peut-être pour cette raison, d'ailleurs, qu'on n'arrive pas à avancer sur ce sujet. Voilà, je voulais avoir votre sentiment là-dessus.
Non. D'abord, juste l'exemple de 1954 de la Communauté européenne de défense est très éclairant, parce que qui était le plus grand soutien de la Communauté européenne de défense, et à l'époque d'une armée européenne, parce qu'on parlait d'une armée européenne, c'était le président américain, c'était Eisenhower, qui soutenait l'initiative, qui a été torpillée dans cette alliance contre nature entre les gaullistes et les communistes. Donc, dire que les Américains ont toujours été opposés à la défense européenne, en fait, historiquement, c'est un peu plus nuancé. Vous avez tout à fait raison de souligner tous les problèmes que vous avez indiqués, problèmes de dépenses de défense. Et d'ailleurs, on peut le dire, enfin, mais moi, j'ai aucun problème à le dire. Je pense qu'aujourd'hui, vous pourriez aussi dire, dans un contexte de finances publiques très dégradées, comme on le connaît en France, est-ce qu'aujourd'hui, on est prêt à investir plus en matière de défense ? Je pense qu'il y a un moment, il y aura des choix à faire. Ça sera probablement, si on veut plus investir en matière de défense, réduire certaines dépenses sociales. Je pense qu'il faudra un moment dire la vérité aux gens. Enfin, c'est pas, on peut pas tout faire. Donc il faudra faire des choix, très durs politiquement, mais à mon avis, sur lesquels on n'a pas le choix. Mais je pense que tout ce que vous venez de décrire confirme l'idée que le débat sur la défense européenne ne peut pas se faire autour de grands concepts. Ne peut pas se faire autour de armée européenne, souveraineté stratégique européenne, autonomie stratégique européenne. Ça n'avancera que si ça se fait de manière très concrète. Donc c'est des exercices conjoints qui renforcent la confiance entre les militaires sur le terrain. C'est au niveau de l'industrie de la défense européenne, là où il y a énormément d'efforts à faire. Je rappelle quand même qu'on a été incapable de construire un géant de la défense européen. À l'époque, on voulait fusionner en 2012 British Aerospace et Airbus. Ce qui faisait beaucoup de sens, parce que British Aerospace avait des activités dans le domaine de la défense extrêmement développées. Airbus, à l'époque EADS, dans le domaine du civil. Et en l'occurrence, quand j'étais avocat, moi, j'ai travaillé sur cette opération. Donc, j'ai vu pendant un an, ça occupait un peu mes jours et mes nuits. Et au bout d'un an, l'opération a été torpillée. Elle a été torpillée par qui ? Par Merkel. Pourquoi ? Cette opération, qui, sur le plan industriel et en matière de défense, était essentielle pour l'avenir de l'Europe. Parce que dans le cadre de la réorganisation, il y aurait eu effectivement des sites qui auraient été remis dans certains pays. Et il y avait un Länder en Allemagne où il y aurait eu un site qui aurait été fermé, ou tout du moins réduit considérablement en taille. Et Merkel avait des élections dans ce Länder un mois après et avait bloqué l'opération parce qu'elle ne voulait pas antagoniser l'électorat de ce Länder. Elle a par ailleurs perdu l'élection et l'opération ne s'est jamais faite. Donc là, on est clairement sur quelque chose de très court-termiste, mais qui a des conséquences de long terme dramatiques. Et donc, je pense que c'est par ce genre de choses, par des opérations très concrètes en termes d'industrie de la défense. Aujourd'hui, par exemple, au niveau européen, on a 14 modèles de tanks différents. Je crois qu'en termes d'avions, on est à 23 modèles différents. Ça n'a aucun sens. Enfin, il faut, voilà, au niveau de l'industrie de la défense, consolider. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup d'efforts à faire dans ce domaine-là.
Bonjour, merci et bravo pour votre exposé. Moi, je voulais revenir sur une question que vous avez abordée concernant la règle de l'unanimité, qui est un, vous nous l'avez expliqué, qui est un point de blocage avéré et depuis longtemps et qui nous empêche de passer et de changer de dynamique dans la construction européenne. Mais moi, là, donc ce point, il est identifié depuis très longtemps. De vue de ma fenêtre, j'ai l'impression que ce sujet n'avance pas, ne progresse pas. Donc moi, j'aimerais bien que vous nous expliquiez, en tout cas, comment, quel est le chemin, s'il existe, pour effectivement remettre en cause cette règle de l'unanimité et passer une autre règle de fonctionnement au sein de la communauté européenne. Est-ce qu'il existe un chemin, et si oui, lequel?
Alors, le chemin est très compliqué.
Et l'horizon.
Le chemin est très compliqué, puisque pour passer à l'unanimité, il faut l'unanimité. C'est la beauté des règles européennes, et que donc, vous pouvez imaginer qu'un certain nombre d'États membres font tout pour bloquer, parce que notamment vous êtes Orban, vous savez bien que le jour où vous mettez fin à la règle de l'unanimité, vous n'avez plus aucune influence sur la politique étrangère de l'Union européenne. Mais par ailleurs, c'est aussi le cas sur la fiscalité. C'est les deux grands domaines où, à mon avis, il faut qu'on passe à la majorité qualifiée. Par ailleurs, sur la fiscalité, qui a aussi une dimension politique étrangère, parce qu'on avait bien vu que quand on voulait mettre en place une taxe sur les entreprises du digital, on a été incapable de le faire au niveau européen, parce que c'était toujours bloqué par un État membre, l'Irlande notamment, ou d'autres, qui empêchaient l'harmonisation fiscale au niveau européen. Donc ça, c'est un vrai, vrai sujet. Je pense qu'il y a aussi une question de pédagogie de nos responsables politiques. Je ne vais pas le citer, mais j'ai vu, il y a à peu près un an, un responsable politique français. Et je lui explique exactement la règle de l'unanimité, etc. Et il me dit « Ah, mais c'est formidable, mais bien sûr, il faut qu'on passe à la majorité qualifiée. » Et puis là, il laisse passer un silence, 30 secondes, et il me dit mais ça veut dire que donc, la France aurait plus de veto non plus ? Et je lui dis « Bah oui, ça va pour tout le monde. » « Ah oui, dans ce cas-là...
» Oui. Rebonjour et merci pour votre exposé très clair. Je voudrais juste ajouter que le sujet fiscal que je connais bien au niveau de l'Union européenne, la règle de l'unanimité, elle a été contournée à plusieurs reprises, et notamment le dernier texte carbone qui est en cours là a été un peu tordu de telle sorte qu'il passe dans un autre range de réglementation et donc il sera voté à l'unanimité, à la majorité qualifiée. Voilà. Donc et donc tout n'est pas voté à l'unanimité. Mais je voulais vous entendre aussi sur le budget européen, puisque les ambitions que vous avez dressées et qu'on partage tous, je pense, sont très nobles, évidemment, mais nécessitent des moyens. Et vous l'avez évoqué un peu en creux, nos finances publiques, en tout cas s'agissant de la France, elles sont très dégradées. Et la hausse des taux qui a commencé nous pénalise beaucoup, puisque la France est incapable de voter un budget à l'équilibre. Donc à chaque fois qu'on a des dettes qui arrivent à échéance, on rôle nos dettes et on part de nouvelles dettes. Mais cette fois-ci, elles seront plus à zéro, voire à taux négatif. Elles vont être à 2%. Donc le service de la dette dans le budget de l'État va beaucoup nous affaiblir. Et notamment si on a des ambitions sur le budget militaire, ça va beaucoup nous empêcher. Donc j'aimerais aussi vous entendre sur le budget européen qui aujourd'hui est quand même... c'est 1,13% du revenu national de chaque État. Chacun contribue. Mais on a vu avec la sortie des Anglais combien ça a été difficile de rehausser, parce que c'était 1% de revenir à 1,12 ou 13, je ne sais plus. Quelles sont vos visions là-dessus? Est-ce que vous pensez qu'il y a des marges de manœuvre quand même à aller chercher pour le faire augmenter, ce budget européen, et par quel moyen?
Non, mais c'est une question clé. Vous êtes une spécialiste de ces questions, donc je n'irai pas dans la mécanique. Mais je pense que ce qu'on a vu, c'est quand même qu'au niveau européen, on a été capable... En fait, c'est souvent les crises qui génère notre capacité à avancer sur le plan budgétaire. On l'a vu avec le plan de relance au moment de la crise du Covid. Je pense qu'il faut ce genre, en fait, et toute la construction européenne, c'est une construction de crise. Et Luc Van Middelaar l'a montré dans ses ouvrages, que ce soit sur le plan institutionnel, sur le plan budgétaire, on avance comme ça. Ensuite, il y a la question, on en parlait avant cette rencontre, qui est la question des ressources propres de l'Union européenne. Mais la question des ressources propres pose la question derrière, et on l'évoquait, du consentement à l'impôt et de la question de la légitimité démocratique européenne. Parce que c'est aujourd'hui la Commission européenne n'est pas élue, comme on le sait, n'a pas une, alors elle a une certaine forme de légitimité démocratique, mais qui n'est pas directe. Et donc je pense que c'est un débat démocratique plus large qui est, dès lors qu'on veut donner des ressources propres à l'Union européenne, dans quelle manière on crée un lien démocratique plus direct entre ceux qui nous dirigent au niveau européen et nos concitoyens. Et je pense que là, il y a probablement beaucoup de choses à faire, que ce soit au niveau du Parlement européen, de l'instance nationale, de la question du lien entre le Parlement européen et la Commission, la manière dont elle est désignée. Donc je pense que la question budgétaire est très compliquée parce que c'est aussi une question en fait, de légitimité démocratique.
Avant-dernière question. Ah, bonjour, merci encore. Vous avez cité deux fois l'expression « les routes de la soie ». Je cherche des points positifs. J'ai un peu du mal, vous avez développé le potentiel de l'Europe, les obstacles. Donc ma première question, c'était comment ressortir de ce moment sous les chaînes doux et délicieux avec des idées un peu plus positives. Et du point de vue des routes de la soie, j'aurais aimé vous entendre sur ce qu'a amené Peter Frankopan depuis 2015 et encore récemment avec son deuxième opus, les nouvelles routes de la soie, où on comprend bien que 65% de la population mondiale existant à l'est d'Istanbul, c'est là où 70% des énergies fossiles sont, et je ne parle pas des terres rares encore ailleurs, ben, il n'y a pas énormément de raisons de se dire qu'il y a une inéluctabilité en fait, de ce décentrement de l'histoire, et qu'il ben, va falloir peut-être se faire une raison. Nous sommes en train de vivre ce changement et ce retour à ce qui a eu été... Far away, Gengis Khan, etc. Donc qu'est-ce que vous pensez de cet historien, des écrits de cet historien ?
Oui, donc, d'abord, Frankopan est un historien très intéressant. Hein. C'est un spécialiste d'abord de l'Empire byzantin qui va ensuite se spécialiser sur toutes les questions chinoises. Je pense que sur les routes de la soie, il y a plusieurs choses qui sont très intéressantes. D'abord, il y a un génie chinois qui est d'avoir présenté, lorsque les routes de la soie ont été lancées, ça a été lancé lors d'un discours annoncé à Xi'an en 2013, tout à fait. Le génie de Xi Jinping a été d'inscrire les routes de la soie dans une perspective plurimillénaire. C'est-à-dire il a renoué avec l'histoire plurimillénaire chinoise. Et je pense que là, il y a une leçon qu'on doit tirer, nous, Européens, et c'est sur quoi je concluais, c'est-à-dire qu'il faut que nous, dans ces projets, dans nos projets européens, on sera capable de créer de l'émotion et de l'adhésion que si on est capable de renouer avec notre histoire de long terme. Donc ça, c'est une première leçon qu'on doit tirer. Deuxièmement, sur la question des routes de la soie, il est intéressant de voir que les Européens et les Américains essaient de contrer les routes de la soie. On a quand même des projets qui ont été annoncés au niveau européen de routes de la soie européennes. Enfin, on ne l'appelle pas route de la soie, mais grosso modo, c'est comment on va investir demain en Afrique, etc. Sauf qu'on ne met pas le budget en face. Et qu'on s'aperçoit qu'on annonce quelque chose il y a un an au niveau européen, que les Américains annoncent eux-mêmes leur propre initiative, et que là, lors du dernier G7, on annonce quelque chose de nouveau. Et donc il y a une question de cohérence aussi. Comment est-ce que, à la fois, soit on fait quelque chose, les Américains plus les Européens, et on dit, OK, on met le paquet financièrement ensemble, etc., soit on fait quelque chose uniquement les Européens, mais il y a une question de cohérence. Ensuite, moi, sur les routes de la soie, ce que je reproche à la Chine, ce n'est pas de vouloir augmenter son commerce mondial. Par définition, la Chine, elle doit le faire. C'est question de survie pour elle. Le vrai problème, c'est quand elle utilise ses routes de la soie pour affaiblir la souveraineté européenne, diviser les Européens entre eux. C'est quand elle investit dans le port du Pirée en Grèce et qu'elle contrôle les infrastructures et que derrière, quand la Grèce devrait voter sur un texte pour condamner les violations de droits de l'homme de la Chine, ne le fait pas parce qu'elle est complètement contrôlée par la Chine. C'est lorsque Orban bloque toute résolution à l'égard de la Chine parce que la ligne de chemin de fer entre Belgrade et Budapest est financée par les capitaux chinois. C'est lorsque le Monténégro se retrouve au bord de la faillite et fait appel à la solidarité européenne parce que les précédents gouvernements dans ce pays ont pendant des années souscrit à des prêts chinois qui sont dans des conditions absolument terribles. Et donc voilà, c'est ça en fait le problème. Moi, que la Chine se développe très bien, mais c'est qu'elle n'utilise pas ces nouvelles routes de la soie pour diviser les Européens entre eux et pour réduire leur souveraineté. Et c'est le cas des nouvelles routes de la soie, c'est le cas aussi du format 16+1 qui réunit les pays d'Europe centrale, orientale et des Balkans avec la Chine et dont s'est retirée la Lituanie. Et qu'a fait la Chine lorsque la Lituanie s'est retirée? Elle a essayé de créer un blocus complet des biens exportés de la Lituanie vers la Chine. Et surtout, elle a essayé d'empêcher que les d'autres entreprises européennes qui travaillaient, grosso modo, elle a dit aux entreprises européennes présentes en Chine, si vous continuez de commercer avec la Lituanie, on vous bloque vos activités en Chine. Ça, c'est de la coercition économique. Et l'Union européenne est en train d'essayer de travailler là-dessus pour éviter qu'on se retrouve l'otage de la coercition économique chinoise.
Alors, nous allons prendre le temps passant à toute vitesse. Nous allons prendre une dernière question.
Merci. Dans votre exposé sur l'Europe puissance, vous avez souligné à plusieurs reprises l'importance de la défense. Mais il y a un volet de la défense que vous n'avez pas évoqué, c'est le volet nucléaire. La France a l'arme nucléaire, elle a une politique de dissuasion. Comment, dans l'avenir, peut-on intégrer l'arme nucléaire dans la panoplie européenne?
Alors c'est une question très, très complexe, mais moi, mon intuition, et c'est plus une intuition, et je ne suis pas du tout un spécialiste de la question nucléaire et atomique, c'est qu'on ne pourra pas, en fait, mettre l'arme nucléaire au niveau européen. Parce que, in fine, le choix de déclencher l'arme nucléaire, c'est un choix tellement lourd que je ne vois pas comment il peut être donné à des autorités qui n'ont pas la légitimité démocratique. À un moment donné, en France, c'est donné au président de la République parce qu'il a la légitimité de l'élection au suffrage universel et que ça donne une légitimité pour utiliser cet outil-là. Au Royaume-Uni, vous avez le Premier ministre qui incarne le pouvoir exécutif, qui a ce pouvoir-là. Je ne vois pas comment, au niveau européen, vous pourriez mettre demain l'arme nucléaire, entre guillemets, au niveau européen. Donc je pense que c'est plutôt un outil qu'on va utiliser dans la panoplie de défense européenne dans son ensemble. C'est-à-dire que la France gardera la possibilité d'utiliser l'arme nucléaire potentiellement si à un moment elle considère que ses intérêts sont menacés ou qu'elle considère que les intérêts de l'Union européenne étant menacés, sa souveraineté elle-même est menacée et donc elle peut l'utiliser. Donc ça peut être un outil de dissuasion contre des pays, des puissances tierces qui voudraient attaquer l'Union européenne. Mais je ne pense pas que l'arme nucléaire, l'outil nucléaire, ait à passer au niveau européen. Je ne pense pas.
Voilà, nous arrivons au terme de cette rencontre. Merci énormément, en fait, Jérémy. Jérémy parle très bien, mais il écrit aussi très, très bien. Donc, je vous engage à aller, en fait, à la table. Donc, regardez et achetez son ouvrage, qui se fera un plaisir de vous dédicacer. C'est un ouvrage qui à la fois se lit comme un roman, mais aussi comme un manuel de philosophie politique, et où vous retrouvez dans des chapitres courts, effectivement, un portrait chinois de Kissinger dans ses relations avec ses inspirateurs et les autres grands leaders.